L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 46e chronique de l'onde du bois avec Lionel dans les studios Amemac qui va on va avoir droit au deuxième épisode de la revue de presse forestière aujourd'hui, c'est ça?
Yes, tout à fait. Salut Raphaël, bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver aussi. Ça fait même quasiment presque un petit mois qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait plaisir de te retrouver aussi en studio, Raphaël. C'est cool.
Ouais.
J'entame alors une deuxième petite revue de presse hein, après les heureux événements qu'il y a eu à Mémac avec la fête de la forêt et puis bah, les chantiers, tout ça, les cours à l'école forestière. Bah, on travaille pas mal avec le CDI hein, de l'école forestière, un haut lieu de la connaissance des techniques et puis de la mise à jour de ces connaissances en suivant bah, les infos. Eh bien, je suis allé voir un peu, lire un peu, ouvrir les magazines. Et en fait, ben, comme en forêt, il suffit de se pencher vers le sol, hein, d'ailleurs en ce moment, pour ramasser ces feuilles qui témoignent d'une année de végétation révolue chez les feuillus caducs ou même de 4 à 6 années passées chez les résineux persistants. Il y a beaucoup d'infos sur ces feuilles, un peu comme un journal. Des différences de forme comme de pignon, une nervure principale comme ligne éditoriale et autant de nervures secondaires que de rubriques à grand ou petit format pour mieux capter l'attention des lectrices et lecteurs comme les rayons du soleil et toujours droit dans ses bottes, bien accroché à l'actualité comme avec son pétiole un rameau qui compose l'enchevêtrement des houppiers. Monde.
Wow, le king de la métaphore forestière.
Voilà, c'est Lionel Ripaud, souvent. Alors, bon, on est donc parti pour une deuxième revue de presse de la forêt sans papier ni langue de bois, avec pour principal but de rester objectif et à caractère informatif.
Alors, on va commencer, je crois, avec un article vraiment très local, puisqu'il est, il est tiré de la revue du Parc naturel régional de Mille Vaches, c'est ça ?
Oui, bah, dans la dernière newsletter du PNR de Mille Vaches, on lit avec plaisir donc, la création d'un livret pour expliquer la charte forestière sortie le 10 octobre dernier. Ce document résulte d'une large concertation avec les acteurs forestiers du territoire et décrit le projet de territoire où les structures signataires s'accordent sur l'identification d'enjeux et d'orientation pour la filière forêt-bois locale. Elles affirment ainsi leur volonté de construire et d'évoluer ensemble sur les thématiques forestières. Afin de rendre accessible à tous ce document et l'action forêt du parc, un livret illustré a été édité. Vous pouvez le consulter ou le télécharger en ligne sur le site du Parc naturel régional de Mille Vaches. Rédigé par Élise Levé et illustré brillamment par Hélène Richard, qui rend la lecture de ce guide plus ludique, on sent qu'il est principalement voué aux propriétaires forestiers et on espère qu'il atteindra ses cibles ici sur le plateau de Mille Vaches, mais aussi en dehors, car beaucoup de propriétaires vivent loin de leur forêt. Un livret à lire d'urgence et à garder sur son bureau pour se rappeler toutes les données clés de la forêt du PNR de Mille Vaches.
Allez, on va quitter le plateau, mais pas forcément le type de paysage qu'on peut y trouver, puisque tu nous emmènes au Canada avec le prochain article.
Ouais, tout à fait, Raphaël. On part au Canada pour un sujet brûlant, auquel d'ailleurs on pourra tirer un bon enseignement, car il s'agit d'un enjeu d'avenir pour ici, les méga-feux. Dans la rubrique « Vue ailleurs » de la Revue des entrepreneurs des territoires, FNEDT, de novembre 2024, on apprend qu'au Québec, les entreprises de travaux forestiers sont en pleine réflexion sur leur avenir face aux méga-feux qui ont ravagé la belle province en 2023. On apprend que les autorités publiques ont mis en chantier un projet de refonte du régime forestier qui va impacter les entreprises de l'amont. Sylvie Gaumont, directrice du comité sectoriel Forêt Compétences, en présente les grandes lignes dans l'article 2DT Magazine. Elle dit « C'est l'équivalent de la Suisse qui est partie en fumée dans nos forêts à l'été 2023, soit près de 4,5 millions d'hectares. » Un an et demi plus tard, Sylvie Gaumont, la directrice générale de Forêt Compétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre des ETF québécois, use de cette comparaison éloquente pour ses interlocuteurs français afin de donner une idée de l'ampleur de la catastrophe. provoquée à 99,9% par la foudre, la superficie brûlée est même supérieure à la somme des 20 dernières années dans la belle province, toutes causes confondues. À l'échelle du Canada, ce sont plus de 15 millions d'hectares qui ont été dévorés par les flammes l'année dernière, plus du double du précédent record de 89, essentiellement dans l'Alberta, les territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique. Sylvie Gaumont rajoute que les grands incendies de l'année passée nous obligent à repenser nos modes d'aménagement et d'intervention dans les massifs forestiers. Les entrepreneurs qui travaillent souvent loin de leur base, plusieurs jours d'affilée dans le Grand Nord, ont pour habitude de laisser des réserves de carburant sur des sites stratégiques à proximité des chantiers. Certains de ces stocks ont explosé sous la pression du feu, aggravant encore la situation. Pour autant, les ETF québécois ne peuvent pas parcourir de trop longues distances juste pour aller se ravitailler en gasoil. Ainsi, aux côtés des ingénieurs forestiers du Québec et des politiques, c'est une vaste remise en question de nos pratiques à laquelle nous nous attelons désormais.
Allez, on va quitter un peu les incendies, mais heureusement, en matière de forêt, on sait que le feu n'est pas forcément la fin de la forêt, parce qu'on peut tout à fait imaginer une régénération forestière. Et je crois que tu vas nous parler d'une pratique ancestrale qui permet de voir à nouveau jaillir les forêts, c'est ça?
Et oui, Raphaël, un article en ligne de l'ONF datant du 20 novembre nous apprend qu'il y a eu une récolte de glands exceptionnelle cette année en Val-de-Loire. La récolte de glands dans les forêts domaniales est une étape essentielle pour préserver et régénérer la forêt française. En octobre 2024, les techniciens de l'ONF des départements du Loir et Cher, d'Indre-et-Loire et du Loiret, appuyés par des associations locales, ont participé activement à cette mission méconnue mais cruciale. Face aux impacts du changement climatique, sécheresse à répétition, maladies, les parasites, il est primordial de diversifier les essences et les provenances dans les peuplements pour les rendre plus résilients. Il faut aussi planter là où les sols ne permettent plus la régénération naturelle. Mais pour planter, il faut des graines. À peu près tous les 2 ans, les chênes de nos forêts donnent des graines connues de tous par les glands. Donc certaines parcelles en forêt domaniale sont réputées pour la très belle qualité génétique de leurs arbres et sont référencées pour que l'on y récolte des fruits. En France, les deux principaux acteurs de la récolte de graines sont Villemorin-Micado et la sécherie de la Joue de l'ONF. C'est une mission d'importance accomplie humblement, à genoux ou à pied, au pied des arbres, un gland après l'autre. Pour cette année de fructification exceptionnelle, les forestiers ont notamment pu compter sur le soutien des associations locales pour une récolte record. On espère voir ces futures chênes sur le plateau de Mille Vaches.
Ouais, on peut l'espérer, effectivement. Allez, pour finir, on va quitter un peu la forêt, oui, pour aller s'abriter sous les haies. Qui est aussi un milieu qui est bien connu par les forestiers, puis tous les agriculteurs, les paysans qui se respectent.
Oui, Raphaël, tout à fait. Pour finir, un autre article du magazine des entrepreneurs du territoire qui nous donne des précisions sur la gestion des haies avec cet article. Haies de la contrainte aux opportunités pour les entrepreneurs de travaux agricoles. Alors, on apprend ici qu'il y a un durcissement de la réglementation sur la gestion de ces haies, qui sont des peuplements linéaires, et notamment sur la création de nouveaux linéaires implantés, et également donc il y a une ouverture de lignes de crédit pour l'investissement. Les pouvoirs publics impulsent une nouvelle dynamique au secteur de la haie, charge aux entrepreneurs, acteurs indispensables de la filière, de s'adapter. En 2023, la nouvelle PAC, Politique Agricole Commune, a étendu la période d'interdiction de taille des haies chez les agriculteurs. Auparavant fixée du 1er avril au 31 juillet, la dénommée BCAE, donc ce sont les bonnes conditions agricoles et environnementales, est désormais effective du 15 mars au 15 août. Donc on ne peut plus tailler sur ces périodes-là. C'est ce qui paraît logique, c'est les dates de nidification. Une évolution qui impacte directement les entreprises de travaux ruraux et qui peut parfois générer des tensions avec leurs clients. J'ai des demandes pour intervenir sur cette période que je refuse systématiquement. Je ne veux pas mettre en jeu la responsabilité de mon entreprise, évoque Rémi Batic, entrepreneur dans le Pas-de-Calais qui réalise l'entretien des haies chez 150 agriculteurs. Pour autant, il l'avoue lui-même, cette interdiction l'a obligé à investir dans une deuxième machine, là où une seule aurait suffi sur 12 mois pour le même volume de travail. Cette feuille de route soulève d'autres interrogations autour des méthodes d'entretien des haies. Le passage mal adapté d'un broyeur ou d'une épareuse impacte les habitats, même hors période de nidification, ainsi que l'état des haies pour leur fonctionnalité, en particulier celle de l'accueil de la biodiversité. Les mauvaises pratiques pourraient être sanctionnées à l'avenir, comme c'est le cas pour les cours d'eau, même hors période d'interdiction d'entretien des haies, soulève Catherine Moret, secrétaire générale de l'association française Arbres, Champêtres et Agroforesterie. Une dernière info sur cet article, c'est que en fait, le pacte en faveur de la haie, présenté par le ministère de l'Agriculture en septembre dernier, a alloué 110 millions d'euros d'aide pour les haies en 2024. Restrictions budgétaires obligent, cette somme est revue à 30 millions d'euros dès 2025, ce qui est énorme. Enfin, les ETA, donc les entreprises de travaux agricoles, sont citées parmi les bénéficiaires possibles. Nous avons fait valoir que les acteurs de la gestion de la haie ont besoin de moyens pour remplacer leur matériel afin qu'ils soient adaptés aux nouveaux objectifs visés pour leur haie. Précise Catherine Moret, elle évoque la mise en place de consortiums regroupant plusieurs acteurs en région pour répondre à cet appel à projet et assure que les entreprises répondant seules, sans projet collectif, risquent de recevoir une réponse négative. Donc, tous ensemble pour mieux gérer la haie, c'est dans l'ordre des choses. Et sur Plateau de Midvache, il y en a aussi beaucoup des haies.
Et on espère que les contrevenants aux réglementations ne vont pas finir au tribunal de la haie.
Bien vu.
Ouais, voilà. Désolé. Alors super, merci pour toutes ces feuilles d'infos ramassées à l'appel. Et je crois qu'on va terminer comme toutes les ondes du bois, voilà. En musique.
Oui, tout à fait. Allez, c'est le moment de se quitter jusqu'à la prochaine onde du bois. Et pour se dire au revoir, eh bien, je vous propose d'écouter le titre « Sulky Spring » de l'excellentissime album « In the Sun » du groupe londonien Youth, que j'ai découvert grâce à leur session live dans les vastes forêts de Surrey Hill. La vidéo est absolument à voir, les gars sont posés dans les bois, d'où résonnent leurs grattes, caisses claires et autres hangpan, peut-être bientôt sur le plateau, on espère, et en attendant à découvrir maintenant avec Silky Spring de Youth.